Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Vieille Europe, toujours sur Radio Courtoisie. Alors autour de moi, je n'ai encore personne. Normalement, Pascal et Cyril ne devraient plus tarder. Nous allons faire une émission, nous allons commencer cet été par plusieurs émissions sur d'anticipation, un peu d'anticipation, car nous recevrons le mois prochain David Engels pour son livre Le Déclin, une comparaison entre la crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine. Mais ce soir, nous allons avoir le plaisir d'avoir par téléphone l'universitaire Bernard Wicht pour son essai Europe Mad Max demain, retour à la défense citoyenne, aux éditions FAV. Je voudrais simplement m'excuser auprès des auditeurs parce que je suis légèrement malade, même en plein été avec cette chaleur, ça arrive. Donc je risque d'avoir quelques cannes de toux, mais je vais essayer de me faire le plus discret possible. Donc, de nos jours, on peut se demander si des organisations sans territoire, mais dotées d'une réelle puissance financière et militaire, ne sont pas en train de supplanter l'État-nation, ou tout au moins de le concurrencer de manière décisive. Nous allons avoir au téléphone Bernard Wicht. Est-ce que vous m'entendez ?
Oui, je vous entends. Bonsoir.
Bonsoir. Merci d'être sur Radio Courtoisie. Alors, pour vous présenter un peu aux auditeurs, vous êtes professeur à l'Université de Lausanne. Vous me coupez si je me trompe, hein. Vous êtes professeur d'université à l'Université de Lausanne, et vous enseignez depuis 2001. Vous avez écrit une thèse de doctorat sur l'idée de milice dans la pensée de Machiavel, qui était parue aux éditions de l'Âge d'Homme en 1995. Et depuis, vous avez sorti plusieurs livres. Vous êtes l'auteur de L'OTAN attaque, de Guerre et hégémonie, et aussi de publier récemment un court essai intitulé Une nouvelle guerre de 30 ans. Réflexion et hypothèse sur la guerre actuelle. Et c'est notre ami Laurent Chang, que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien, et les lecteurs d'éléments, qui a parlé de votre dernier livre, qui s'appelle Europe Mad Max, demain, le retour à la défense citoyenne. Alors, Bernard Wicht, vous commencez votre livre en parlant d'une révolution militaire en sous-sol, et vous expliquez ce que cette révolution en la comparant à la disparition des Templiers. Pour être plus précis, peut-être ?
Oui, tout à fait. Donc le concept de révolution militaire a été développé dans les années 50 par les historiens anglais. Et puis ensuite, dans le monde anglo-saxon, c'est un concept qui a été, je dirais, développé et abondamment utilisé. Dans le monde francophone, il est moins connu. Mais en fait, le concept dit la chose suivante, c'est que les transformations militaires, lorsqu'elles se développent sur une longue durée, avec un volume important, ont un impact déterminant sur les formes d'organisation politique. Alors, la révolution militaire, la thèse à son origine, c'était pour montrer comment les armées modernes au XVIe siècle, avec l'apparition et la systématisation des armes à feu, la professionnalisation des troupes, etc., et puis évidemment avec les coûts que cela engendre, l'accroissement des effectifs, avait conduit à la création de l'État moderne, c'est-à-dire une bureaucratie centralisée capable de gérer les ressources pour entretenir ce nouvel outil militaire. Donc ça, c'est l'origine de la thèse sur la révolution militaire. Et donc la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on peut appliquer ce modèle de réflexion sur le développement de la guérilla au sens large à partir de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Et au fond, je suis arrivé un petit peu à la même conclusion en disant, forcément, sur pratiquement maintenant près d'un siècle, donc de 1940 au moment où on lance les premiers mouvements de résistance en Europe face à l'occupation nazie, et jusqu'à nos jours, eh bien, on a pratiquement une durée bientôt d'un siècle, et on voit que, je dirais, cette forme de guerre a un impact de plus en plus important sur les unités politiques. L'exemple type, c'est évidemment le Hezbollah, le Hamas, mais avant, il y a eu l'IRA, il y a eu l'OLP, il y a les FARC, etc. Donc, la forme du groupe armé est en train de s'affirmer, non seulement comme forme d'organisation militaire, mais aussi comme forme d'organisation politique. Or, ce qui la distingue, cette forme de l'État moderne, eh bien, c'est effectivement qu'elle ne dispose pas, qu'elle ne contrôle pas un territoire déterminé, mais qu'elle a deux éléments qui font de plus en plus défaut à l'État moderne, comme on le voit dans le cadre de la crise actuelle, c'est une capacité financière autonome et un outil militaire qu'elles peuvent utiliser un peu comme elles veulent. Et donc, c'est un peu la réflexion de se dire, n'assiste-t-on pas à une révolution militaire en sous-sol, au sens où l'utilisation exponentielle de la guérilla sous toutes ses formes depuis le milieu du XXe siècle jusqu'à nos jours, n'est-il pas en train d'engendrer de nouvelles formes d'organisation, non seulement militaire, mais également politique, qui se montrent particulièrement résilientes et bien plus efficace que certains États beaucoup plus importants en taille.
D'où votre comparaison avec les Templiers, qui, eux, effectivement, avaient une puissance militaire et avaient la finance qui allait avec.
Alors, j'utilise effectivement cette image en disant que les Templiers étaient une des formes d'organisation militaire et religieuse au Moyen-Âge, qui avait la particularité d'être capable de mobiliser une troupe disciplinée, ce qui n'était pas le cas à cette période. Hein. Les troupes de chevaliers étaient généralement peu disciplinées et répondaient peu facilement à l'appel du banc royal. En revanche, les Templiers étaient non seulement disciplinés, mais bien entraînés, et les Templiers, via leur fonction de protection des lieux saints, disposaient du premier système bancaire moderne avec les commanderies. Et donc, ils disposaient avec ça des deux éléments qui nous intéressent à l'heure actuelle, une puissance militaire et une puissance financière. Mais on se trouve avec les Templiers dans un schéma inverse, c'est-à-dire que les Templiers, eux, sont supplantés par la montée en puissance de l'État moderne, son contrôle du territoire, etc. Et donc, le fameux procès que Philippe IV le Bel intente aux Templiers et qui amène à leur dissolution est l'exemple que, au fond, la forme d'organisation politique étatique fondée sur le territoire est, à ce moment-là de l'histoire, plus forte. Mais c'est la question que je me pose, est-ce qu'à l'heure actuelle, on n'assiste pas à un renversement, à un retour du balancier, c'est-à-dire que les formes d'organisation politique territoriale, donc l'État moderne par excellence, seraient supplantées par ces nouvelles formes d'organisation politique, beaucoup plus flexibles, beaucoup moins bureaucratiques, et qui ont une liberté d'action au sens macro-stratégique, parce qu'elles disposent totalement de leur outil militaire, et qu'elles disposent des moyens de le financer en toute autonomie.
Vous expliquez qu'avant les guerres étaient déclenchées par des États forts et que c'est le contraire aujourd'hui. La faiblesse d'un État amène et déclenche souvent les guerres. On a pu le voir en Yougoslavie, par exemple.
C'est ce qu'on ce à quoi on assiste depuis la fin de la guerre froide. On peut dire très schématiquement, hein, j'insiste vraiment en disant très schématiquement, les historiens sont beaucoup plus précis, très schématiquement jusqu'à la fin de la guerre froide, le modèle dominant est encore la guerre entre États, avec des armées régulières, avec la définition de la guerre comme poursuite de la politique, etc. Et à partir de la fin de la guerre froide, eh bien, on peut dire que c'est plus tellement la puissance des États qui est source de guerre, mais leur faiblesse. Et donc la guerre change de nature, c'est plus une guerre, un affrontement entre armées régulières, une guerre avec des moyens énormes comme on l'a vu pendant les deux guerres mondiales, mais ça devient des guerres à l'intérieur de l'État, des guerres chaotiques, et l'Afrique malheureusement nous donne le triste spectacle de cette situation depuis la chute du mur de Berlin.
On parle souvent de la disparition de l'État-nation est due à la mondialisation. Quel est le rôle depuis en fait la fin de la Seconde Guerre mondiale de ce qu'on appelle et ce que vous appelez la notion de communauté internationale? Est-elle responsable principalement de cette situation?
Alors, je suis pas tout à fait partisan de l'explication qui dit que l'État-nation est affaibli par la mondialisation. Je suis partisan de l'explication inverse qui a été formulée par Emmanuel Todd une première fois, disant que c'est parce que on a un affaiblissement de l'État-nation que la mondialisation devient possible. Et cet affaiblissement, eh bien, il faut le voir dans la dramaturgie de la première moitié du XXe siècle, Verdun, Auschwitz, Hiroshima. On peut pas imaginer que la période 1914-1945, qui est une seule et même longue guerre, se termine et qu'elle n'ait pas au fond comme conséquence un affaiblissement déterminant de l'État moderne. Et donc à partir de là, on a la réaction de dire au fond ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est la guerre entre États. Ça, c'est le mal absolu, et donc on crée un étage supérieur qui est cette communauté internationale avec comme mandat d'éviter la guerre entre États. C'est le mandat de l'ONU, ce sera la raison de la création de l'Union européenne et de toutes les organisations qui gravitent autour. Et puis maintenant, plus d'un demi-siècle après la mise en place de ce système, il faut bien constater que la communauté internationale est un étage d'autorité au-dessus, je dis bien d'autorité au-dessus des États, mais n'est pas un étage de pouvoir. En ce sens qu'elle n'a absolument pas été capable de canaliser la violence, elle n'a pas été capable de maintenir un ordre international, et au fond, sa principale fonction a été d'accroître encore et d'affaiblir encore l'autorité et le pouvoir des États. Donc, de renforcer cette situation qui veut que la guerre naisse plus de la puissance des États, mais de leur faiblesse.
Et où vous situez l'Europe, quand je parle l'Europe, c'est-à-dire l'Europe de Bruxelles?
L'Europe de Bruxelles, elle est née de cette volonté. Plus jamais ça, donc plus jamais de 14-18, de 39-45. Et donc, la création de cette instance supranationale, elle est totalement dans cette logique, même si au fond, au départ, la création a été essentiellement économique. Mais l'idée, c'est plus jamais ça. Donc, unissons le plus possible les États européens et de la sorte, ils se feront moins la guerre. Alors, effectivement, dans ce sens-là, on peut dire que ça a fonctionné. On a plus de guerre entre États depuis plus d'un demi-siècle. En revanche, ce qu'on constate, c'est qu'évidemment, comme le disait Clausewitz, la guerre est un caméléon. Vous la mettez à la porte et elle rentre par la fenêtre. Donc elle est revenue, mais elle est revenue sous d'autres formes. Et puis l'exemple que vous citiez tout à l'heure, la Yougoslavie, ça n'est qu'un seul exemple. Donc la guerre est en train de revenir, mais non plus sous sa forme interétatique, celle qu'on a connue à l'époque moderne, mais sous sa forme intra-étatique, c'est-à-dire à l'intérieur de l'État. Et pour ça, il faut bien constater que les groupes armés sont beaucoup mieux équipés pour la faire que l'État moderne.
Quand vous parlez pour l'Europe, vous dites pas exactement que l'État-nation va disparaître, mais qu'il est plutôt en transformation. Qu'est-ce que vous appelez? Il se transforme en quoi? Il se transformerait en région, en...
L'idée, c'est que mon point de départ, c'est la définition de Max Weber. C'est-à-dire, au fond, on peut dire l'école weberienne. C'est-à-dire que l'État moderne, c'est l'organisation qui revendique avec succès le monopole de la violence légitime sur un territoire et une population donnée. Pour y arriver, il a dû éliminer ses concurrents, que ce soit les grands seigneurs féodaux, que ce soit les compagnies à charte, que ce soit les cités indépendantes, ou toute autre forme de pouvoir de coercition indépendant sur son territoire. À partir de là, quelle était votre question?
Si l'État-nation ne disparaît pas, parce que c'est vrai que vous dites plutôt qu'il va se transformer. Cette transformation, ça va devenir quoi? Est-ce qu'on va se retrouver avec des micro-régions si l'État n'existe plus, ou une sorte de grande Europe
Alors. Moi, je parle de l'idée de la dynamique du monopole de la violence légitime qui continue de fonctionner. Évidemment, l'État, il y a maintenant des franges entières de territoires, et ça ne concerne pas seulement la France, ça concerne tous les États en Europe. Il y a des franges entières de territoires, que ce soit en Grande-Bretagne, en Espagne, en Allemagne, en Italie, etc. Donc, des franges entières de territoires et de populations qui lui échappent. Et elles lui échappent définitivement. En revanche, la dynamique du monopole fait que l'État se renforce encore son contrôle sur la partie de la population qu'il peut encore contrôler. Et donc, ce redéploiement, c'est que auparavant, le monopole de la violence légitime, il était tourné vers l'extérieur, c'est-à-dire vers l'ennemi extérieur, puisqu'on se préparait à la guerre entre États. C'était l'ennemi héréditaire, l'ennemi extérieur commun, celui qui, au fond, créait la cohésion nationale. D'ailleurs, même Hegel le dit dans la philosophie du droit, et Hegel n'est pas un polémologue, Hegel dit les guerres heureuses, mais il parle des guerres entre États, les guerres heureuses, cesser les dissensions internes et accroît la puissance de l'État. Donc il montre bien que c'est cet ennemi extérieur qui, au fond, soude la communauté nationale. À partir du moment où on définit un ennemi à l'intérieur de l'État, évidemment, le monopole de la coercition, il se dirige sur l'intérieur, c'est-à-dire sur la population elle-même, sur la population que l'on peut encore contrôler. Et cette définition de l'ennemi intérieur, on a commencé à la voir apparaître très clairement à partir de 2001 avec les attentats du 11 septembre, où on a essayé de pointer du doigt un terroriste potentiel à l'intérieur du territoire. Et puis maintenant, au fond, je dirais que c'est toute personne qui ne se soumet pas aux injonctions de manière immédiate et sans discuter. Donc ce redéploiement a lieu au sens où l'ennemi extérieur a disparu, ben forcément, puisqu'on a créé cette communauté internationale, qu'on a mis la guerre entre États hors la loi, alors forcément la définition de l'ennemi se dirige vers l'intérieur. C'est l'ennemi intérieur et il peut prendre différentes formes. Certains politologues utilisent la formule de nord-irlandisation de l'État par référence à la situation de l'Irlande du Nord, où au fond on voit le développement des lois d'exception. On voit le développement des systèmes de surveillance par caméra, vidéo, etc. On voit la militarisation des forces de police et on voit, je dirais, la définition de périmètres de sécurité, que ce soit les centres-villes où je dirais on essaye d'assurer une sécurité maximale pour des raisons économiques et commerciales, et puis des zones dans lesquelles on accepte qu'il y a finalement moins, voire pas du tout de contrôle étatique. Donc c'est en ce sens-là que je parle d'un redéploiement de l'État. Et j'étais intéressé de voir que les criminologues faisaient la même analyse en disant on a passé de l'État militaro-territorial, hein, celui qui était, comme je le disais tout à l'heure, basé sur la nation, la nation en armes, l'armée nationale, etc., la guerre entre États, on a passé de cette formule de l'État militaro-territorial à ce qu'ils appellent l'État pénal carcéral. Et je pense que c'est assez délicat à dire, mais je pense que malheureusement, c'est la dérive des États modernes en Europe à l'heure actuelle.
Est-ce qu'on pourrait voir, parce qu'on parlait tout à l'heure des Templiers, mais est-ce que, par exemple, une organisation comme les mafias qu'on trouve en Italie, ou même dans les zones de non-droit, c'est-à-dire certains quartiers qui pourraient créer leur propre économie, sont cette forme de guerre qui risque de nous attendre. Et je pense aussi même à certaines entreprises multinationales qui pourraient créer leurs propres armées pour protéger leur propre économie.
Alors, les mafias, c'est certainement avec les mafias, avec les gangs, avec les mouvements terroristes, etc. Enfin, toute cette nébuleuse, c'est clair qu'on assiste à ce qu'on appelle, dans la logique weberienne, le réarmement des concurrents. Le réarmement des concurrents sur le territoire national. Et l'intérêt de cette formule, c'est qu'elle montre que ces concurrents sont désormais parfaitement en mesure de se financer, totalement indépendamment des canaux étatiques. Donc, ils sont des concurrents de l'État, au même titre qu'auparavant, la France avait pour ennemi héréditaire l'Allemagne, que l'Allemagne avait comme menace première la Russie, etc., etc. Donc, quand on parle de, c'est pour ça que j'utilise pas le terme de guerre civile, mais de guerre à l'intérieur de l'État, parce qu'il y a des entités qui sont bel et bien des entités fortes, qui sont tout à fait capables de conduire un combat contre l'État. Mais évidemment, à l'heure actuelle, on a toujours de la peine à appeler ça guerre. On parle de violence, on parle de déstabilisation ou d'autres mots, mais si on veut être, je dirais, conforme à la définition de la guerre, c'est-à-dire à la définition qu'elle a pris au cours des 5000 ans d'histoire dans laquelle elle est documentée, il faut bien dire que c'est une forme de guerre. C'est pas une forme de guerre de haute intensité, c'est un conflit dit de basse intensité. L'exemple du Mexique à l'heure actuelle est particulièrement frappant. Il y a plus de morts au Mexique qu'il y en a en Syrie, mais personne n'en parle.
Oui, parce que vous donnez effectivement quelques exemples en Amérique du Sud ou au Moyen-Orient où ils vivent déjà cette situation où l'État, lui, n'existe plus et qu'on a déjà ces guerres qui se sont transformées.
Absolument.
Un exemple qui est assez intéressant aussi, c'est le Liban, vous en parlez. Le Liban est dans cette situation depuis un bon moment.
Alors, le Liban, a été, de mon point de vue, le premier laboratoire de cette transformation de la guerre. Il n'est d'ailleurs pas innocent que le premier qui ait été capable de formuler cette transformation de la guerre soit l'Israélien Martin Van Creveld, qui avait évidemment sans doute un point d'observation sur le Liban beaucoup plus proche que nous. Et le Liban a été sans doute le laboratoire de cette situation, avec des communautés qui se sont organisées afin d'assurer leur autodéfense. Ces systèmes d'autodéfense se sont petit à petit transformés en mafia ou alors en partie politique. Et puis on assiste à la situation actuelle où certains de ces groupes, notamment le Hezbollah, sont devenus des acteurs internationaux qui ont beaucoup plus de puissance que certains États.
Que l'État du Liban lui-même, quoi.
Oui, et puis même que d'autres États. J'entends, si le Hezbollah éternue, je pense qu'il fait beaucoup plus de bruit que mon pays, par exemple la Suisse, qui pourtant économiquement est un pays florissant. Ils font beaucoup plus de bruit que l'Italie, ils font beaucoup plus de bruit que la Belgique ou les Pays-Bas.
Cette situation, vous dites, mettrait fin à ce qu'on a dans la guerre moderne, depuis la Révolution, appelé le citoyen soldat, c'est-à-dire qu'il se sent concerné par son pays. Dans ce cas, il est remplacé par qui ?
Alors ça, c'est toute la question que je me pose dans mon ouvrage. À l'heure actuelle, si on fait le catalogue des combattants, on voit que le citoyen, c'est la grande inconnue. Alors, juste pour mémoire, qu'est-ce qu'on a à l'heure actuelle comme catégorie de combattants ? On a tout ce qui est partisan, qui, selon la définition de Carl Schmitt, se bat pour une cause que l'État n'est plus en mesure de lui donner, et donc ça nous renvoie à tous les groupes armés dont on parlait tout à l'heure. On a ensuite les forces spéciales, soldats professionnels, etc., qui constituent ce qui reste des forces armées étatiques. On a les entreprises militaires privées, qui donc le grand retour du mercenariat. On a ceux qu'on appelle les soldats, entre guillemets, qui sont les exécuteurs des mafias ou des gangs. Et puis, qu'est-ce qu'on a pour le citoyen ? Ben, on n'a plus rien. On n'a plus rien. Donc là, non seulement il y a un point d'interrogation, mais il y a pour moi une grosse inquiétude, parce que la citoyenneté n'est pas tombée du ciel. La citoyenneté n'est pas tombée du ciel avec le contrat social Jean-Jacques Rousseau en paquet cadeau. la citoyenneté, précisément si on en revient à la définition weberienne de l'État du monopole de la violence légitime, la citoyenneté, elle s'est construite par négociation, par marchandage, au sens où le citoyen a été capable d'échanger ses prestations militaires contre des droits de représentation. La fameuse formule « pas d'impôt sans représentation », elle dit bien ça. C'est que le citoyen a pu obtenir la représentation, pas parce qu'il payait des impôts. Le cerf au Moyen-Âge, qui n'avait aucun droit, il payait déjà les impôts. Mais parce qu'il avait un service militaire qu'il pouvait offrir en contrepartie. Or, à l'heure actuelle, où est cette contrepartie? Donc ça, pour moi, c'est une grosse question. On ne peut pas revenir en arrière en disant on va retourner au modèle de 1789, la nation en armes. Ça, l'histoire ne repasse pas les plats.
Oui.
Donc il faut se poser la question, si on pense encore qu'on peut avoir une citoyenneté, quel est le moyen de garantir aux citoyens ce pouvoir effectif vis-à-vis de l'État?
Ça risque de mettre même, et vous le dites, de mettre en place la fin de la démocratie.
Je pense que, si vous me permettez d'être un peu pointu, je pense qu'elle est déjà
finie.
Déjà finie. Au moment où. Pourquoi ? Bon, on a plusieurs définitions de la démocratie, hein, on est d'accord. On a l'Assemblée des citoyens à Athènes, on a la démocratie représentative, on a l'équilibre des pouvoirs, etc. Dans le cadre de l'État moderne, ça a été la démocratie représentative en fonction du principe que j'évoquais tout à l'heure, pas d'impôt sans représentation. Or, dorénavant, tous les États de l'Union doivent faire approuver leur budget par... la Commission de Bruxelles, qui n'est pas un organe parlementaire, qui est un organe bureaucratique non élu. Donc, les parlements nationaux peuvent décider ce qu'ils veulent, prendre des déclarations, mais ils ne maîtrisent plus leur outil premier, qui est leur budget. Alors là, je crois qu'il y a vraiment un des piliers fondamentaux de la démocratie qui est définitivement aboli. Alors à partir de là, est-ce qu'on a encore la démocratie ? Alors il faut après peut-être essayer de disserter sur la notion de démocratie. Mais si on part de l'idée que dans l'État moderne, la démocratie, ça a été le système pas d'impôt sans représentation, que la citoyenneté s'est construite de ce point de vue-là, alors il faut dire qu'en tout cas, de ce point de vue-là, il n'y a plus, d'ores et déjà, plus de démocratie en Europe. Curieusement, la plupart des États européens ont supprimé la conscription quelques années auparavant. Donc c'est pour ça que c'est une question qui me préoccupe vraiment de manière importante.
Donc je rappelle aux auditeurs que vous êtes sur Radio Courtoisie, que nous recevons Bernard Wicht pour son essai Europe Mad Max, demain retour à la défense citoyenne aux éditions Favre. Il y a quelque chose d'intéressant dans votre livre, c'est que vous dites très justement qu'on n'emploie plus du tout en tout cas dans le vocabulaire politique, on ne parle plus de liberté, mais qu'on parle maintenant aujourd'hui de sécurité. La liberté est une notion qui a disparu. Est-ce que vous pourriez développer?
Oui. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'à partir de la fin de la guerre froide, au moment où, au fond, on a pensé que la paix était arrivée de manière définitive, le terme liberté a quitté le discours politique. Et il a été remplacé presque immédiatement par le terme sécurité. En philosophie, sans entrer trop dans le détail, on sait que généralement les deux termes s'excluent l'un l'autre. On ne peut pas avoir la sécurité et la liberté. On a l'un ou l'autre. D'ailleurs, c'est le fameux contrat hobésien. L'individu abdique sa liberté en contrepartie de la sécurité que lui offre l'État. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, on est entré dans une logique de société du risque. Au fond, société du risque, ça a été l'explicitation du vocable de sécurité. Tout devient risque. Donc la sécurité est devenue le premier souci de l'État. Et à partir de là, je dirais, quand on met sur le même pied le tabagisme, la vache folle, les risques nucléaires, les catastrophes naturelles, une éventuelle guerre ou d'autres problèmes, qu'on met ça tout sur le même pied d'égalité au titre de la sécurité, évidemment, on ouvre une porte assez large et assez grande pour remettre en cause toute forme de liberté qui, elle, comporterait évidemment un certain nombre de ces risques.
Est-ce que vous pensez, là, avec les derniers les éléments qu'on a pu avoir sur les écoutes américaines sur l'Europe, que l'Amérique a déjà franchi le pas et qu'elle n'est plus pays de liberté, mais surtout un pays de sécurité ?
Malheureusement, ce n'est pas le cas de l'Amérique seulement.
Ouais.
Ce n'est pas le cas de l'Amérique seulement. Aux États-Unis, certainement, que d'ailleurs le mouvement Occupy Wall Street l'a particulièrement mis en évidence, il semblerait qu'on soit déjà dans un système oligarchique où 1% de la population contrôle le pays, qu'on prend les décisions au détriment des 99 autres pourcents. Mais j'ai l'impression que ça n'est pas du tout propre à l'Amérique. Aux États-Unis, ce qui me frappe beaucoup dans la situation actuelle, c'est aussi le changement de discours vis-à-vis de l'impôt. Alors maintenant, on présente l'impôt comme l'acte citoyen par excellence. Mais n'oublions pas que la citoyenneté n'a rien à faire avec l'impôt. L'impôt, c'est protection contre rémunération. Et le paysan du Moyen-Âge qui avait le droit d'aller se réfugier dans le château de son seigneur, qui était qui était sans doute pas un citoyen, encore moins un noble libre, payait déjà un impôt. Donc là, on a aussi un changement de vocabulaire qui est assez important et qui est assez inquiétant aussi.
Si on devait, parce que effectivement, si demain le soldat citoyen disparaît complètement et n'a plus d'État au-dessus de lui, il va se battre pour qui ce citoyen, enfin ce futur combattant, pour une cause, pour est-ce qu'on va pas se retrouver dans un retour de guerre de partisans, ou même de régionalisme ou de économiquement.
Les causes, à mon avis, sont à définir non plus en termes d'État, mais en termes de liberté. Au sens, non pas au sens de liberté individuelle négative, j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit à ma sphère privée, mais il y a l'autre versant de la liberté qui est la liberté républicaine, la liberté positive, qui dit le droit de participer à la gestion des affaires communes. Cette liberté-là, elle est complètement oblitérée à l'heure actuelle. Et s'il y a une cause que un citoyen soldat peut encore revendiquer, c'est bien celle-là. Je peux participer à la gestion des affaires qui me concernent. Et ce qui le concerne en premier lieu, me semble-t-il, c'est sa sécurité, c'est sa propre sécurité. Et le levier qui dit « je prends ma sécurité en main, je suis, moi, responsable de ma vie et de mes biens », qui, rappelons-le, est un des principes fondamentaux de la philosophie moderne. Parce que Hobbes, que je citais tout à l'heure à propos du contrat hobbesien, il ne faut pas oublier qu'on ne cite que cet aspect de Hobbes et qu'on oublie que la deuxième moitié du Léviathan est consacrée à l'autre aspect, c'est que lorsque l'État ne remplit plus sa fonction de protection, Hobbes nous dit, l'individu récupère immédiatement son droit à se défendre parce que c'est un droit naturel qu'on ne peut abandonner par aucune convention. C'est un droit naturel. Donc, s'il y a quelque chose à défendre, une cause à défendre pour le citoyen soldat du 21e siècle, c'est bien cette conception de la liberté. Alors, à l'heure actuelle, comment est-ce qu'elle se formule dans un État qui est en décadence, dans un État qui, de mon point de vue, a un peu abdiqué sa fonction d'État démocratique? Alors là se pose la vraie question pour les années à venir. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé à la notion d'autonomie. Non pas l'autonomie au sens politique. On a vu dans les années 80 du siècle passé énormément de mouvements autonomistes, de mouvements séparatistes, qui réclamaient l'autonomie au sens de l'autonomie de leur région. Vous parliez des régionalistes oui. tout à l'heure. L'autonomie de telle région, l'autonomie de telle province, l'autonomie... Non, l'autonomie au sens où je maîtrise, où j'essaye de maîtriser les processus dont je dépends. Les processus de vie dont je dépends. Et j'ai cité quelques exemples dans ce sens dans mon livre, des exemples aussi bien tirés du Mexique que par exemple des populations acadiennes qui avaient subi une oppression économique, pour montrer que l'autonomie, c'est-à-dire récupérer cette capacité de contrôler ces processus, c'est sans doute une des formulations possibles de la liberté un début de formulation possible de la liberté républicaine dont on parlait tout à l'heure.
Quand vous parlez d'exemple, je lisais dans votre livre, vous preniez l'exemple du Brésil, qui avec ses favelas a carrément créé une économie parallèle avec sa propre sécurité.
Alors, l'exemple qui m'avait frappé, c'était effectivement celui des favelas, où au fond... certaines favelas se sont débarrassées des trafiquants de drogue qui dominaient leur quartier, qui au fond empoisonnaient leur existence, précisément en prenant en main leur propre sécurité. Donc, je dirais, ça se passe vraiment à un niveau capillaire. Et c'est pour ça que la description que donne l'essayiste allemand Enzensberger sur la guerre civile moléculaire me paraît tout à fait intéressante. Le terme guerre civile, il n'est pas très approprié à notre époque. La guerre civile, on l'a connue en Europe entre le 16e et le 19e, quand un groupe dominant affrontait un groupe, je dirais, un peu moins fort à l'intérieur d'un État, mais qui n'était pas prêt encore à abandonner ses droits. Et donc, on avait catholiques contre protestants, nord contre sud, etc. Enfin, tous les scénarios qu'on a connus. Ce type de scénario-là, on ne va plus les revoir dans l'État à l'heure actuelle. Il n'y a pas le nord contre le sud. En revanche, quand il nous parle de guerre civile moléculaire, il met bien le doigt à l'échelle où ça se passe, c'est-à-dire à l'échelle du petit groupe, des individus, etc. Et donc, les individus au niveau relativement de base, qui reprennent en main leur sécurité, font déjà un premier effort dans ce sens-là.
Est-ce qu'on pourrait, on a eu en France dans l'actualité les événements autour des émeutes de Trappes, peut-on voir l'embryon de Trappes, je ne sais pas si en Suisse vous en avez parlé, est-ce qu'on peut voir l'embryon peut-être d'une nouvelle organisation de la cité et le rôle de la religion là-dedans, parce que elle est aussi importante dans les sociétés modernes d'aujourd'hui?
Je me suis pas beaucoup penché sur, je dirais, les facteurs, les phénomènes identitaires, religieux qui traversent nos différentes sociétés européennes. Là, je dois le dire. En revanche, le fait que les sociétés se fissurent alors que les États fusionnent, ça, c'est sans doute un facteur déterminant de la conflictualité à l'heure actuelle. Si auparavant, jusqu'à dans la deuxième moitié du XXe siècle, on avait comme logique conflictuelle la guerre entre États, maintenant on peut dire que la logique conflictuelle, c'est la fusion des États d'un côté et la fission des sociétés de l'autre. Que cette fission soit causée pour des raisons économiques, identitaires, religieuses ou autres, je pense que ça c'est la dynamique, c'est la dynamique conflictuelle.
Vous dites que souvent dans notre avenir, on a l'avenir de l'Europe, il y a trois discours dont deux sont très connus, qui est l'Empire ou l'Apocalypse, et vous parlez plutôt de celui du rebelle. Vous avez une théorie, vous expliquez que la loi du petit nombre permet souvent de paralyser le plus grand nombre.
Alors, d'abord sur la question des discours, c'est que à l'heure actuelle, une action du point de vue stratégique, hein, sortons quelques minutes du contexte État, etc. Du point de vue stratégique, une action ne peut se dérouler dans la durée que s'il y a un discours derrière qui la justifie. On voit très bien que même la première puissance mondiale, les États-Unis en Irak, à court d'arguments, une fois qu'on a éventé les armes de destruction massive et autres démocraties de marché, leur jour en Irak ont été comptés. Le discours est, je dirais, le prérequis de l'action stratégique. En contrepartie, vous avez un mouvement qui, du point de vue militaire, est quasiment, une plaisanterie, c'est le mouvement néo-zapatiste du Chiapas, qui lui, en revanche, développe un discours tout à fait global, un discours qui s'affirme par rapport au néolibéralisme, etc. Et on voit la place que prend ce mouvement, qui, militairement, ne représente rien.
Pas grand-chose, ouais.
Hein. Donc, du point de vue de l'action stratégique, l'importance du discours. Et quand on dit le discours, alors, les anglo-saxons, pendant longtemps, ont parlé du « storytelling ». Avec la fameuse phrase à la fin, c'est celui qui raconte la plus belle histoire qui gagne. Alors ça marche dans les médias, hein. C'est les couveuses qu'on avait débranchées au Koweït.
Au Koweït, oui.
C'est les armes de destruction massive en Irak, etc. Au-delà du storytelling, le discours, c'est vraiment la mise en forme de la réalité. À l'heure actuelle, comme mise en forme de la réalité, vous l'avez dit, on a deux mises en forme de la réalité. L'une, c'est la mondialisation heureuse, quoique là, elle a du plomb dans l'aile, mais enfin, ça continue, c'est le libre marché, le libre échange, la concurrence, la production économique, le succès commercial, etc. De l'autre côté, on a le discours d'apocalypse avec la fin des ressources, le monde qui court à sa perte, etc. Et donc, quand je dis le discours du rebelle, je dis il y en a un troisième à construire par rapport à ces deux. Si la citoyenneté veut survivre ou veut revivre, il faut qu'elle se construise un discours. Alors, quand je dis le discours du rebelle, c'est pas le discours du rebelle au sens où on l'a entendu dans les mouvements de libération nationale de l'après-guerre. C'est revenir à cette idée que c'est le rebelle au sens que définit Ernst Jünger. C'est-à-dire, c'est l'homme qui est maître de son destin. C'est l'homme qui est maître de son destin, c'est l'homme qui prend sa vie en main et qui dit, bon, voilà, je ne suis pas le jouet des circonstances, j'apporte moi-même ma pierre à l'édifice. Alors il y a ça, et dans ce sens-là, il y a quand même déjà beaucoup d'éléments qui apparaissent, qui sont pour le moment, je dirais, encore à l'état gazeux, qui se sont pas encore solidifiés, mais je suis frappé de voir, par exemple, le grand succès de l'histoire locale. Que ce soit dans n'importe quel pays d'Europe, les livres qui parlent de l'histoire locale, c'est-à-dire de la ville, de la région, du coin de pays, ces livres rencontrent un succès phénoménal. Donc les gens ont envie de redécouvrir leur histoire. Redécouvrir son histoire, c'est se reconstruire quelque part.
Ouais.
Donc là, il y a des premiers éléments de reconstruction. Et quand je parle du discours du rebelle, je pense notamment à cela, c'est-à-dire à se reconstruire une compréhension du monde qui ne soit pas dépendante de la vision néolibérale ou de la vision apocalyptique. Mais pour le moment, on n'en est qu'au début.
Ouais, vous donnez une place importante aussi à la nouvelle technologie et surtout à l'information et Internet. Est-ce que c'est un accélérateur de ce retour peut-être local, c'est-à-dire ces réseaux qui se mettent en place dans le monde entier?
Certainement. De mon point de vue, en tout cas, j'accorde beaucoup d'importance à l'avènement de la société de l'information. Pourquoi ? Parce que je me place toujours un peu dans la perspective que nous sommes à l'heure actuelle dans une situation relativement similaire à celle qui a vu la fin de l'Empire romain et l'entrée dans le nouveau Moyen-Âge. Or, tous les historiens de l'Antiquité tardive nous disent que les populations à l'époque se trouvaient dans une situation assez dramatique, précisément sous une pression fiscale relativement importante, avec des contrôles policiers relativement serrés. Et tous relèvent qu'en revanche, elles n'avaient aucune activité économique qui leur permettait d'échapper à cette situation. Or, l'avènement de la société de l'information, de ce point de vue-là, m'apparaît comme cet échappatoire. Parce que, et c'est pas simplement une échappatoire, c'est vraiment une transformation macro-historique. Si on prend les changements d'outils de production dans l'histoire de l'humanité, on serait au troisième changement d'outils de production. Donc le premier étant au néolithique, le passage des sociétés de chasseurs-cueilleurs aux sociétés agraires. Le deuxième étant à partir du 17e, 18e, l'entrée dans l'ère industrielle. Et le troisième serait maintenant l'entrée dans la société de l'information. Donc déjà ça, si effectivement cette société de l'information est un changement macro-historique de l'outil de production, on va devant des bouleversements vraiment importants. Deuxièmement, la société de l'information, contrairement à la société industrielle, elle donne à chacun le potentiel d'être son propre entrepreneur. Il est directement, via la toile, via les outils, que ce soit l'informatique, Internet, les téléphones portables, les nouvelles imprimantes 3D, etc., chaque individu a l'accès direct au marché. Et déjà, d'ores et déjà, on le constate, la fameuse explication de la longue traîne qui dit « Auparavant, les entreprises faisaient 80% de leur chiffre d'affaires avec 20% de leur catalogue. À l'heure actuelle, grâce à Internet, c'est 80-80. Mmh. » Ça veut dire qu'il n'y a plus les articles phares qui font avancer toute l'entreprise et puis le reste, qui est, je dirais, accessoire. Non, maintenant, grâce à Internet, tout article, tout objet trouve preneur. Parce que, évidemment, tout le monde peut se brancher et le contact entre tous est direct. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, on assiste à un aplatissement des structures. On n'a plus besoin d'organigrammes comme ceux qu'on avait dans l'ère industrielle, très hiérarchisés, avec des unités de production, des unités de vente, etc. On assiste à un véritable aplatissement des organigrammes, des modes d'organisation. Troisièmement, dans l'ère industrielle, en caricaturant un peu, on peut dire que l'individu était soumis à la machine. Avec la société de l'information, c'est l'inverse. C'est l'individu qui reprend sa prééminence avec ses idées. Avec ses idées, avec sa capacité de création, avec sa volonté de mener un projet, etc. Et donc, on voit très bien que ce qui fonctionne sur Internet, c'est pas des organisations complexes, ce sont des idées. Les gens ont une idée, ils la mettent sur la toile, d'autres réagissent, etc. Et les gens se retrouvent alors qu'ils ne se connaissent pas. Donc là, on a vraiment des opportunités qui sont, je pense qu'on ne peut pas vraiment encore les mesurer. Et je pense qu'elles vont se développer d'autant plus vite que la crise actuelle se durcira.
On va peut-être terminer un peu sur votre pays. La Suisse a pendant été très longtemps par le reste de l'Europe, on était persuadé qu'un jour ou l'autre la Suisse ne rentrerait pas dans l'Europe. Pourtant les pressions sont fortes, ils sont obligés de signer des contrats, non pas de pays par pays, mais avec l'Europe tout entière. Est-ce que vous avez l'impression que la Suisse est devenue un peu un nouveau modèle et que tout le monde la regarde avec son système démocratique que tout le monde lui envie en tant que, je dirais, population de tout le reste de l'Europe?
Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'en général, l'Europe voit de la Suisse ce qu'elle a envie de voir. Elle voit de la Suisse une place financière, le secret bancaire, ce qui est vrai, Mais n'oublions pas que par rapport au produit intérieur brut, la place financière, c'est entre 8 et 10% du produit intérieur brut de la Suisse. Donc ça veut dire que l'argent qui est dans les banques suisses n'est pas investi sur le marché suisse. Ça, c'est une chose que généralement on ne sait pas. Or, pourtant, les entreprises suisses fonctionnent bien. Le pays a passé en moins de 10 ans de 6 millions à 8 millions d'habitants, non pas parce qu'on a eu une politique des naissances, mais parce qu'on a une très forte immigration qui vient essentiellement des États voisins, donc l'Allemagne, la France, l'Italie, etc. Donc l'économie va bien, sans vouloir être trop, de force entrée, on peut même dire qu'elle va très bien. Ce que vous dites est tout à fait vrai, c'est-à-dire que la pression sur la place financière est considérable et que la Suisse a vraiment, en ce moment, on peut le dire, vraiment dû concéder passablement de terrain à l'Europe sur ce point-là. Ça, c'est certain. Mais encore une fois, par rapport au dynamisme du marché, c'est pas un souci, c'est plutôt un souci en termes d'image du pays. Un pays qui accepte sans cesse de concéder tel avantage à ses voisins, d'accepter de signer tel traité qui est pas forcément favorable, etc. C'est vraiment pas une bonne image. Et ça devrait être une source d'inquiétude pour nos dirigeants. En revanche, l'économie fonctionne bien. L'économie fonctionne bien, pourquoi ? Est-ce que c'est le miracle ? Est-ce que les Suisses travaillent plus que les autres, sont plus intelligents ? Non, c'est pas ça. Mais il y a sans doute deux facteurs. Le premier, c'est que le pouvoir politique est décentralisé. Donc, le gouvernement fédéral a relativement peu de pouvoir. Pensons que l'essentiel des impôts n'est pas levé par le gouvernement fédéral. L'essentiel des impôts est levé par les cantons. Oui. Donc le citoyen suisse paye l'essentiel de ses impôts au canton dans lequel il vit. L'État fédéral, lui, je ne veux pas dire qu'il se contente des miettes, mais il a une part fiscale relativement modeste. Donc cet élément de décentralisation est important parce que effectivement le gouvernement est contraint de tenir compte de l'avis de la population. Si vous êtes le ministre, parce qu'un canton c'est un État, mais c'est un État qui a quoi ? Qui a peut-être 100 000 habitants, 200 000 habitants. Donc quand vous êtes le ministre de 200 000 habitants, les gens vous connaissent, savent ce que vous faites, etc. Et si vous voulez être réélu, la pression est quand même un peu plus importante que si vous êtes ne serait-ce que le ministre de 7 ou 8 millions d'habitants qui n'ont pas forcément la possibilité de juger votre action. Donc ça, c'est un facteur important. Le deuxième facteur, il tient au système de formation que l'on connaît essentiellement dans le monde germanophone, qui est la formation duale au niveau professionnel. Donc chez nous, 70% au moins d'une classe d'âge ne va pas à l'université, mais va vers la formation professionnelle. C'est-à-dire, après l'école obligatoire, les jeunes filles entrent dans une entreprise, chez un patron, vont faire 3-4 ans, auront un certificat, pourront faire ensuite un complément, etc. Mais l'élément important, c'est qu'ils sont, dès leur plus jeune âge, sur le marché. Et donc, dès leur plus jeune âge, ils se rendent compte des opportunités et de la possibilité de monter une petite entreprise. Et ce qui fait la solidité économique de la Suisse, c'est le réseau des petites entreprises. C'est pas les banques, c'est pas la place financière, c'est pas le secret bancaire, c'est le réseau des petites entreprises. Et là-dessus, on a pu construire des entreprises un peu plus grandes, comme par exemple Novartis, qui ont un niveau mondial, etc. Mais ces entreprises, ces grandes entreprises, ne font la solidité de l'économie que parce que en dessous, il y a un réseau très dense de PME. Alors ça, c'est, je dirais, cette vision de la Suisse à l'heure actuelle par rapport à l'Europe. Voilà.
Est-ce que vous n'êtes pas, en fait, par rapport à toutes ces discussions qu'on a eues, est-ce que vous n'êtes pas la solution? Parce qu'en fait, votre système a l'air beaucoup plus démocratique que le nôtre, et ça, on s'en aperçoit quasiment tous les jours. Et est-ce qu'il ne résiste pas mieux à cette mondialisation par ce système politique et économique?
Je ne suis pas sûr qu'on soit plus démocratique que les autres.
Mais, que les Français, c'est pas difficile, Bernard Vich.
Mais vous savez, le fait est, comme je le disais, que quand vous avez un pouvoir qui est... Il y a cette fameuse formule anglaise qui dit « Power corrupts and absolute power corrupts absolutely ». Donc le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Quand vous avez un pouvoir qui est éclaté, imaginez quand même que la Suisse, c'est 400 km de long et 200 km de large. Et que là-dessus, vous avez, sur cette microscopique surface dans laquelle vous devez encore mettre la chaîne des Alpes, vous avez 26 États. Oui. Vous avez 26 États, ça veut dire 26 cantons. Certains ont 100 000 habitants, mais ils ont leur constitution, ils lèvent leurs impôts, ils ont leur police, etc. Vous avez un système politique. Donc, je dirais, de ce point de vue-là, vous donnez une chance un peu plus grande aux citoyens de défendre ses droits. Que s'il est confronté à un pouvoir central qui rassemble tout le pouvoir. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas forcément plus démocratique, mais que les conditions sont plus favorables. Et puis, il y a ces fameux mécanismes de la démocratie directe. Et récemment, on a quand même eu une assez belle démonstration avec l'initiative Minder. Ça aussi, c'est une chose qui est relativement peu connue en Europe, c'est que on a eu un référendum, une initiative constitutionnelle adopté à une très large majorité, qui maintenant impose, rend très difficile la création de très hauts salaires et de parachutes dorés dans les entreprises.
Oui.
Et ça, évidemment, c'est un acquis démocratique, j'ai pas peur de le dire, sensationnel, mais qui a été fait contre l'avis du gouvernement et contre l'avis de la classe politique. C'est pour ça que j'ai dit, oui, on n'est pas forcément plus démocratique que les autres, mais on a plus de chances de faire valoir nos droits. Mais autrement, je suis aussi, je dirais, inquiet sur quand je vois, nous, on a, avec la tradition du citoyen soldat, on a aussi à l'heure actuelle une tendance. C'est peut-être un système désuet. Il faudrait partir vers un système professionnel. Et puis c'est les traditions du citoyen en armes. Est-ce que c'est pas totalement folklorique? Est-ce que ça ne représente pas un danger pour la population, etc., etc. Donc on a les mêmes tensions, on a les mêmes problèmes. Maintenant, la structure décentralisée, la parcellisation du pouvoir fait que le citoyen peut mieux défendre ses acquis. Pour combien de temps? Je ne sais pas.
Est-ce que ça va être une de mes dernières questions? On avait reçu votre compatriote Mireille Sacchi du journal Bilan qui nous disait qu'il y avait quand même de la part des Américains une pression, que ça soit sur le système financier, sur les banques, etc. Est-ce que vous avez l'impression que cette pression existe toujours et que les Suisses ont quand même énormément de mal à pouvoir se défendre et garder leur indépendance à ce niveau?
Alors certainement, la pression est encore est tout aussi présente que dans les années 90. J'aurais même tendance à dire qu'elle est encore plus forte maintenant que les États-Unis ont absolument besoin de cet argent pour boucler leur budget. Donc avant, c'était une attitude moralisatrice de leur part. Maintenant, c'est véritablement pour eux un besoin de survie. Donc la pression est encore plus forte. Les Suisses se défendent. Là, je rejoins ma compatriote. Hein, les Suisses se défendent relativement mal sur cette question. On verra comment les choses tournent. Effectivement, la pression est sur la place financière. La pression est sur la place financière. Vous voyez. Pour vous donner un exemple, on est le seul pays européen qui est exportateur vers la Chine. dont nos exportations vers la Chine sont plus importantes que les importations chinoises. On est le seul pays européen à être dans cette situation. Et on va signer prochainement un accord de libre-échange avec la Chine, ce qui va sans doute encore doper nos activités économiques. Je fais toujours le parallèle parce qu'on a toujours tendance à imaginer la Suisse, c'est une place financière. C'est aussi une place financière qui, en ce moment, rencontre beaucoup de difficultés.
Oui, et qui est beaucoup moins importante que la City de Londres. Quand on parle de paradis fiscaux, je pense que la City de Londres n'a strictement rien à envier à la Suisse ou au Luxembourg. Merci Bernard Witsch pour cette parenthèse, bien sûr, Suisse, et pour votre essai Europe Mad Max demain, retour à la défense citoyenne aux éditions Favre. Nous allons nous retrouver et bien sûr, j'espère qu'un de ces jours, vous viendrez sur Paris pour présenter votre prochain livre.
Avec plaisir.
Voilà, donc je vous laisse, on va juste faire une petite pause, vous êtes toujours sur Radio Courtoisie, on va passer à notre actualité européenne, et cette fois-ci c'est la surprise, non, c'est Pascal Essérick. Bonsoir Pascal Essérick.
Bonsoir.
Oui, vous venez juste d'arriver parce que notre ami Philippe n'a pas pu venir, et donc c'est vous qui allez avoir la charge très très lourde de nous présenter l'actualité européenne. En tout cas, nous allons faire juste une petite pause musicale. Cette deuxième partie des chroniques de la vieille Europe, vous êtes toujours bien sûr sur Radio Courtoisie, et je rappelle à nos auditeurs que nous venons d'avoir l'universitaire Bernard Ficht pour son livre Europe Mad Max demain, retour à la défense citoyenne. Alors c'est pas Mad Max qui est dû au film, mais c'est peut-être l'un des livres les plus passionnants de cette année, et c'est grâce à notre ami Laurent Chang qui nous avait présenté ce livre. Et mon cher Pascal, je crois même que dans le prochain numéro d'Éléments, il y a un article sur ce livre.
De Laurent Chang.
Ben voilà.
Alors sur ces questions-là et sur le dernier ouvrage donc de Bernard Ficht.
Juste le temps que vous finissiez de préparer vos petites fiches, je vais juste dire à nos auditeurs que donc le mois prochain l'émission sera enregistrée et nous aurons quasiment une suite, hein, parce que c'est aussi une émission un peu d'anticipation de notre avenir. On recevra David Engels pour son livre Le Déclin, c'est une comparaison entre la crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine. Et je me suis aperçu, mon cher Pascal, que Jean-François Gauthier, que nous avions reçu le mois dernier, c'est marrant comme le monde est petit, a dans le dernier numéro de la Nouvelle Revue d'Histoire, le 67 consacré à Rome, a été interrogé sur que lisez-vous Jean-François Gauthier, et il a parlé du déclin de David Engels. Donc je vous conseille aussi pour cet été le numéro 67 juillet-août 2013 de la Nouvelle Revue d'Histoire, avec bien sûr des pages de dommages à Dominique Vénère. C'est Rome, ville éternelle, et puis en plus comme il y a un hors-série sur Napoléon, Leipzig 1813, vous avez la possibilité pour cet été d'avoir deux excellentes revues. Et bien sûr, le numéro d'éléments de juillet-septembre qui va sortir, je crois, le 29, c'est ça, Pascal ? Le 29 en kiosque, qui va être où il y a tout un dossier sur la France malade de ses médicaments, un dossier extraordinaire sur la médicalisation du berceau à la tombe par Jean-François Gauthier. Donc, vous voyez, on trouve Jean-François Gauthier partout. En tout cas, c'est un excellent dossier. Vous trouverez, bien sûr...
Excellent dossier, excellent connaisseur de la part de Jean-François Gauthier, qui, rappelons-le, et docteur en sciences.
Et en philosophie.
Qui a consacré beaucoup d'ouvrages sur ces questions-là. Effectivement, le dossier est passionnant en ce qu'il décortique toutes les. Les tentaculaires lobbies pharmaceutiques. Voilà. Mais alors, pas seulement, il y a aussi des études sur le corps, sur la santé, et donc voilà.
Ouais, enfin, il explique bien que la France, en tout cas la France, elle, a décidé de choisir son camp, qui est le camp du médicament. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça, vous avez aussi un hommage, en tout cas une très bonne critique de Mort d'un samouraï par François Bousquet, suite, les suites, bien sûr, de l'hommage à Dominique Vénère, avec aussi un texte de Michel Durance et d'Alain de Benoît, une fable écrite par Jacques Vergès. Je crois que c'est la première fois que Jacques Vergès écrit, en tout cas, il a été interrogé, mais c'est la première fois qu'il est...
C'est la première fois qu'il l'écrit dans Élément, en tout cas. Et puis je pense même que c'est la première fois qu'il se met à la fable. Et je crois que les lecteurs auront le plaisir de découvrir cette...
On peut pas en dire plus parce que Jacques Vergès ne voulait pas, mais je pense que c'est une fable qui est trempée un peu dans l'acide et qui va
faire sourire beaucoup.
Sourire, mais c'est le sourire de Jacques Vergès et je peux vous assurer que ça tape fort. Vous avez aussi un excellent entretien de Jean-Louis Prat qui nous parle de Cornelius Castoriadis, où vous avez aussi un excellent article de David Lépé que nous avons reçu avec Édouard Baird, le syndicaliste révolutionnaire, le dernier livre d'Alain de Benoît. Enfin, c'est un numéro riche et même de... Alors là, je serais incapable. Il y a un auteur américain. C'est la première fois que vous interviewez un auteur américain sur les Appalaches par Pierrick Guiteau. Je crois que c'était aussi une première, quoi.
Une première, je ne suis pas sûr. Le numéro... nous avions consacré un numéro sur l'Amérique qu'on aime. Entier, un numéro d'éléments.
Ça existait, ça.
Et oui. C'est pas simplement les anti-américains primaires. Non, il y a eu un numéro sur cette Amérique qu'on aime. Là, c'est donc à propos de Charine Macomb. C'est un auteur à la fois de polar. C'est l'ami Pierrick Guiteau, qui est un excellent connaisseur, qui nous fait rentrer effectivement sur un... C'est un auteur du sud des États-Unis qui s'est un petit peu spécialisé dans les ambiances un petit peu magiques un univers celtique dans les Appalaches et c'est un auteur populaire et en même temps très intéressant.
Donc voilà, je pense que vous avez de la lecture pour cet été entre les deux numéros de la nouvelle revue d'histoire et le numéro d'éléments. Je pense que vous avez de quoi être encore plus intelligent et encore plus brillant. En tout cas, c'est mon cas. Mon cher Pascal, c'est en lisant, mon cher Pascal, qu'on devient de plus en plus intelligent. Gens brillants, je sais pas, mais en tout cas on essaye. Mon cher Pascal, on va faire un peu le tour de l'Europe, comme on le faisait avec Philippe. Vous nous amenez où dans un premier temps?
J'ai épluché un petit peu les principaux titres de la presse européenne, et donc je me suis arrêté sur la question du nucléaire, car je crois que rien n'illustre mieux l'inconstance française que la séquence ouverte par le gouvernement actuel sur cette question-là, sur le nucléaire. Et si l'on ouvre la presse, notamment allemande, de ce dimanche, eh bien on peut lire dans le finalement la France fait du lobbying sur des projets européens pour subventionner la construction de nouvelles centrales nucléaires. Alors, très curieux, puisque c'est en ce moment le même jour, c'est-à-dire dimanche, le même jour, nous avons eu Philippe Martin, le ministre de l'écologie, dans le JDD, qui nous assurait que la centrale de Fessenheim allait fermer à la fin du mandat de François Hollande. Et je trouve que le télescopage de ces deux informations, dans deux pays différents, la France pour l'un et l'Allemagne pour l'autre, montre à quel point résume finalement l'inconstance à la fois l'inconstance de la politique énergétique française, mais aussi l'inconstance de la politique énergétique européenne. Enfin, il est quand même absolument...
Oui, parce que de toute façon, c'est clair que s'il y a un incident nucléaire en Europe, tous les pays seront touchés. Donc l'Allemagne peut nous faire la leçon. Elle achète régulièrement de l'électricité à la France qui est faite par le nucléaire français.
Oui, mais au moins, les les Allemands sont constants. C'est-à-dire qu'ils veulent arrêter le nucléaire, mais ils n'ont pas un double langage au niveau de leur population, au niveau intérieur et à l'extérieur. En France, on voit qu'il y a une séquence sur une offensive du gouvernement pour subventionner la construction de nouvelles centrales nucléaires au niveau européen, et dans le même temps, une offensive médiatique à direction du public français pour dire nous allons fermer les centrales nucléaires. Et voilà, c'était à noter, je crois, pour les auditeurs.
Oui, c'est vrai que depuis qu'ils sont avec les Verts, ils ne sont pas très clairs.
Voilà.
Nous allons passer à
toujours niveau européen. C'est un article d'El País qui est assez passionnant, puisque El País note dans son édition du 22 juillet
le journal espagnol hein, pour
El, voilà exactement dans son édition du 22 juillet que se déroule en ce moment la plus importante campagne de lobbying que Bruxelles ait jamais connue. Et alors figurez-vous qu'elle est menée par Washington, les multinationales américaines, Google, Microsoft, Facebook, et elle vise à ce que les réglementations européennes ne freinent pas leur principal fonds de commerce, qui est la capture de données des internautes et son exploitation à des fins commerciales. Et donc, en pleine affaire Snowden, du nom de cet analyste informaticien de la CIA, qui a révélé l'étendue
de ce qu'on savait déjà, mais enfin là, oui. Il nous l'a confirmé, quoi.
Exactement. On voit que, en revanche, les États-Unis, pour eux, sont constants dans leur politique. C'est-à-dire que le quotidien espagnol raconte comment, par le détail, hein, décrit les réunions, les déjeuners, les ateliers de travail pour influencer l'orientation du projet de règlement sur lequel planche l'Union européenne depuis décembre 2011. Et on voit là, à contrario de la France, la constance, en tout cas, de la politique américaine.
Autre chose.
Alors, je voulais tout simplement faire un point sur ce qui s'est vraiment passé en Égypte.
Là, on quitte l'Europe. Là,
on quitte l'Europe.
Ok, on va quitter l'Europe. Allez-y.
On va quitter l'Europe puisque le président égyptien Morsi. A été donc évincé par ce qu'il faut appeler un coup d'État militaire. Je rappelle quand même qu'il avait été élu le 24 juin 2012 avec 51,7% des voix. Pendant toute la semaine qui a conduit à son départ, on a pu voir, écouter, entendre des commentaires qui justifiaient ce coup d'État. Et donc, je trouve qu'il était intéressant de revenir sur ce point. Je rappelle que le quotidien Le Monde a inventé le concept de coup d'État démocratique.
C'est bien, moi je trouve ça bien. Enfin, oui, je crois que les Américains l'avaient quasiment inventé avant.
Je veux pas dénoncer mes petits camarades, mais
non, mais Le Monde est un grand journal. Quand on invente des termes comme ça, je crois que voilà.
Non, mais parce que il fallait lire le reportage du Monde qui s'est émerveillé de la cacophonie hilare, de la sarabande jubilatoire qui a présidé à la deuxième révolution égyptienne. Et donc, place d'arrière, tout n'était que klaxon, feux d'artifice, tambours, pétards, sifflets et cris de joie. Alors, quand on sait que, et on voit encore qu'il y a eu à peu près qu'il y a eu une centaine de morts, on voit le décalage sur la réalité. les mots manquent pour définir ce genre de journalisme. Voilà.
Ouais, c'est-à-dire que je pense que le Monde, qui est devenu, je pense, moi qui étais lecteur du Monde pour sa partie internationale, je ne le lis plus à cause de sa partie internationale, vu que c'est tellement devenu mauvais. Et je, sincèrement, pour en discuter avec pas mal de personnes, si vous voulez avoir un tout petit peu d'informations, je parle dans les quotidiens français, il n'y a plus que le Figaro sur le plan international qui commence à être... qui reste un peu sérieux, le Monde dit un peu n'importe quoi. Je pense qu'il y a un problème d'argent. Je sais pas, faudra peut-être faire une quête pour qu'ils aient des... On est très loin du Monde d'André Fontaine qui nous expliquait, par exemple, la guerre froide. Voilà, c'est plus du tout ça. Donc c'est une véritable catastrophe. C'était déjà le cas, et je pense que Philippe nous l'a fait remarquer plus d'une fois quand le Monde parle de la Russie. Et là, on s'aperçoit que sur le Moyen-Orient, c'est exactement la même chose.
Exactement. Sur l'Égypte, je rappelle quand même que lors de cette fameuse manifestation du 30 juin qui a conduit au départ du président Morsi, les images télévisées que le monde entier a pu voir étaient mises à disposition gratuitement aux télévisions, aux reporters par l'armée. C'était filmé d'ailleurs par l'armée, puisqu'il y avait 8 hélicoptères qui sillonnaient le ciel de la place Tahrir pour filmer c'est les agapes démocratiques du peuple égyptien. Et donc, ce qui est, encore une fois, hein, ce sur quoi il faut porter son regard, eh bien, c'est cette magnifique mise en scène qui a été orchestrée donc par l'armée. Qu'on en passe du bien ou du mal, on a pu voir dans la plus pure tradition nassérienne le fameux général Al-Sissi réunir à la fois le patriarche copte, le grand imam de l'université Al-Azhar et une figure de l'opposition Baradei autour de lui pour annoncer la destitution en direct à la télévision. Ce qui est intéressant de noter, c'est tout de suite, 2 heures plus tard, avant même d'ailleurs la prestation de serment du nouveau président égyptien, le roi Abdallah d'Arabie Saoudite qui félicite le candidat de l'armée égyptienne. Et alors là, ça pose question. Ça pose question, car on voit se dessiner un axe entre les dirigeants saoudiens et l'armée égyptienne, qui est très curieux, qui est presque contre nature. En tout cas, on nous explique à longueur de journée que l'armée est laïque, etc. Et on voit là qu'il y a un axe entre l'Arabie Saoudite et l'armée égyptienne.
Est-ce que l'Arabie Saoudite a le choix vis-à-vis de son partenaire principal qui est les États-Unis sur une histoire comme ça?
Je constate que oui, elle a le choix. Je constate que le Qatar avait fait le choix inverse, c'est-à-dire celui d'aider les frères musulmans. Donc, on voit que à l'intérieur de cette région, il y a des tensions et des oppositions qui sont intéressantes à noter. On voit que l'Arabie Saoudite étant pas en guerre, mais disons si on peut presque employer le terme de guerre par rapport aux frères musulmans, et c'est intéressant à noter. C'est sur l'échiquier arabe, il y a eu des événements comme l'armée entrant dans les bureaux d'Al Jazeera et fermant Al Jazeera, qui est la télévision du Qatar, et laissant en revanche opérer Al Arabiya, qui est la grande télévision saoudienne. C'est intéressant à noter. On voit donc ce se dessiner une géopolitique nouvelle. Moins d'une semaine après avoir pris le pouvoir, après avoir repris le pouvoir, les militaires ont rétabli les relations diplomatiques avec la Syrie. Ce qui est en train de se dérouler en ce moment en Égypte est absolument passionnant, parce qu'il y a des cartes qui changent de main, notamment, et je crois qu'on n'a pas très peu de journaux ont insisté sur le fait que sur ce fait là sur le rétablissement des relations diplomatiques avec la Syrie de Bachar al-Assad. C'est quand même un événement.
On continue sur...
Alors, je...
Il reste quelques minutes, mais enfin, vous pouvez y aller. Hein.
Oui. Sur cette question-là, je voulais... sur la question des frères musulmans et de l'Arabie Saoudite, juste pour en terminer, je voudrais... mettre en évidence, enfin... l'article d'Al-Aram Hebdo du 17 juillet, c'est un hebdomadaire, hein, du 17 au 23 juillet, qui vient de paraître, de Hicham Mourad, et qui décrit bien toutes les relations très complexes entre les frères musulmans et l'Arabie Saoudite. C'est un article absolument passionnant, assez important, et qui, Hicham Mourad, il va y avoir une montée en tension, enfin qui a déjà eu lieu d'ailleurs, et qui va s'accélérer entre ces deux visions de politique de l'islam.
On peut quand même dire que dans cette histoire égyptienne, en dehors de ce gag ambulant de coup d'État démocratique, c'est quand même un échec pour les frères musulmans. Ils n'ont pas été capables de... Alors je sais qu'un an, ce n'est pas grand-chose, mais ils n'ont pas été capables de mettre la main sur le pouvoir et sur les leviers du pouvoir.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que l'État, ce que notre ami Tancred Josran en Turquie appelle l'État profond, qui est d'ailleurs qui a été utilisé pour d'autres pays, l'État profond n'a jamais cédé finalement aux frères musulmans. Ils n'ont jamais eu que l'apparence qu'une certaine est très fragile apparence du pouvoir. Que va-t-il rester des un an de Morsi, maintenant que la Constitution a été
abrogé,
eh bien il ne reste rien. Il reste simplement un décret concernant les emprunts religieux, c'est-à-dire rien. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'économie égyptienne est totalement aux mains de l'armée. Ceux qui veulent pas voir cela, passent à côté.
Ça va jusqu'au système où les boulangeries appartiennent.
Les boulangeries, les stations.
Alors mais les gens s'en rendent pas compte.
Pas compte que pour acheter du pain, bien il faut aller à la boulangerie. La farine vient de l'armée. Pour acheter son eau, l'eau potable, enfin l'eau en bouteille, c'est aussi l'armée. L'essence, c'est l'armée. Et donc, on voit bien que depuis un an, l'armée a beaucoup souffert de la situation, mauvaise situation économique, et donc elle reprend le pouvoir.
Ok, vous avez encore quelques minutes, si vous avez quelques informations européennes ou du Moyen-Orient.
Oui, on est une parti. Une dernière, c'est finalement tout ça se rejoint, puisque je voulais vous parler de les 28 ministres des Affaires étrangères qui ont décidé d'inscrire de l'Union européenne, qui ont décidé d'inscrire la branche armée du Hezbollah, le parti de Dieu, la formation chiite islamiste libanaise, dans les organisations terroristes.
Ce qui c'est ce qui n'était pas déjà fait.
Non, c'était pas fait. Il n'y a qu'un seul pays, les Pays-Bas, qui ont classé cette organisation, qui, je le rappelle, représente à peu près 35% de la population libanaise, et qui classait donc cette organisation à la fois sa branche politique et sa branche militaire, qui les classait comme organisation terroriste. L'Europe, donc, cette fois-ci, a classé en fait sa branche militaire comme une organisation terroriste. Et on en revient toujours au même point, c'est-à-dire l'inconstance. C'est-à-dire que la branche politique du Hezbollah, elle, n'est pas classée comme organisation terroriste. Et donc ça illustre cette politique européenne qui n'a jamais de position claire, qui essaye de faire le lien entre 28 positions différentes et prend des positions qui sont très peu lisibles.
Vous savez, ça c'est l'Europe, ils sont capables de faire des listes, ils sont incapables de faire de la diplomatie. Voilà, je crois qu'on va en rester là, mon cher Pascal. Je vous souhaite de bonnes vacances. On se retrouve dans 4 semaines. Ça sera une émission qui sera enregistrée. Je ne reviens pas dessus. En tout cas, vous pourrez réécouter cette émission jeudi soir à la même heure, à 21h30, ou autrement sur le site de Radio Courtoisie ou sur le site de La Vieille Europe. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et continuez bien sûr à écouter Radio Courtoisie.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Ain't
always look on the bright side. Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Look on the right side of life.
Come on, boy, cheer up.
Always look on the right side of life. Always look on the right side of life.
Where's things at me, see, you know?
Always look on the right side of life.
What you gonna lose? You know, you come from nothing, you're going back to nothing. Come from nothing, you know what I say?
Always
cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? It's the end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Some of us gotta live as well, you know. Alright, it's a lot. Let's get this place up there.
innocent. I'll never make that money back. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance at the hour.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life.
It's available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. Change this man within 3 weeks. What do you think pays for this rubbish? Never make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.